Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York, épisode 65, saison 3, épisode 16. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve une semaine après le fameux épisode qu'on a fait avec Pascal, notre ancien prof qu'on salue, qui est d'ailleurs qui est parti d'ailleurs, qui est à New York actuellement.
Il est parti hier, c'est ça.
Il est parti hier, voilà. Donc qu'on salue, on lui souhaite un bon voyage. Et voilà, on espère que tout se passe bien pour lui et qu'il nous ramènera en tout cas des belles photos de son périple. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas également à liker, à noter, à commenter sur les plateformes, notamment Spotify et Apple Podcasts. Bien évidemment, vous savez que c'est important pour nous. Merci encore une fois pour vos messages et pour vos retours, ça fait toujours plaisir à lire. Et puis voilà, toujours une petite communauté qui grandit au fur et à mesure, donc... On est content, et puis l'autre fois, je me suis aperçu comme ça qu'on rentrait dans la troisième année du podcast, mon cher Fabien.
C'est ça.
C'est bien, ça fait plaisir.
J'ai pris un an de plus récemment, et
ouais,
j'ai commencé à 35 ans.
Ouais, tu vois, voilà. J'ai commencé à 37, j'en ai 40, tu vois. Donc voilà, chacun son truc. Vous l'avez entendu, mon cher Fabien, il est là.
Salut, JM.
Ça va ?
Ça va, ça va.
Ouais.
Il n'y a pas un petit écho, là ?
Non, ça va.
Hein, parce que j'ai fait des travaux dans le bureau, j'ai tout vidé, c'est pour ça.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, monsieur s'est fait un bureau et tout pour... Ouais. C'est bien, ça.
Là, il y a tout qui est un petit peu en équilibre.
Donc, si vous entendez un gros boom, c'est normal. C'est
ouais, j'ai commencé à se casser la gueule.
Ce soir, nous recevons un invité qui est en direct de New York, enfin en direct pour nous, pas pour vous, puisque on enregistre le mardi, comme c'est souvent le cas. Ce soir, nous recevons Arthur Genre. Salut Arthur.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité.
Ben, merci à toi. Alors, c'est grâce à Fabien, notamment, que tu es notre nouvel invité ce soir. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on n'avait pas eu d'expatrié. New-Yorkais dans le podcast, donc ça fait plaisir. Tu me dis si je me trompe, tu es journaliste, tu es vidéaste, donc tu es parti à New York assez récemment, si je ne dis pas de bêtises, mais tu avais déjà vécu à New York auparavant.
C'est ça, pas dans la ville de New York, mais dans l'état de New York. Je faisais beaucoup d'aller-retour. Et là, pour la première fois donc, dans la ville de New York, je me suis installé il y a pile un an, je crois, c'était en mars 2023. Donc, c'est mon anniversaire new-yorkais bientôt, je pense.
Ah ben voilà. Voilà, ce podcast, on tombe plutôt bien.
Voilà.
Et tu étais notamment chez Bangumi et tu as travaillé notamment pour Quotidien avec Anne Barthez pendant quelques temps.
C'est ça, deux ans et demi à peu près.
Deux ans et demi, c'est ça. Oui, tu faisais une chronique et tu travaillais pour le Petit Cul, c'est ça ou...
C'est ça. Pendant deux ans, je travaillais pour le Petit Cul et pour ma troisième saison, j'avais une chronique, mais qui n'a duré que 4 mois à peu près.
C'est ça, ok.
Que pour la première partie de la saison.
Ok. Et du coup, maintenant tu es à New York, tu es vidéaste, tu as une chaîne YouTube également. Alors tu es un passionné des États-Unis. De base,
on peut dire ça.
Et donc, voilà, tu vas nous raconter un petit peu tout ça. En tout cas, merci beaucoup de nous rejoindre. On adore les récits de gens qui sont à New York. Puis moi, j'aime bien voir les... Alors vous ne voyez pas parce que vous aurez l'audio, mais moi, j'aime bien voir les décos des gens.
Ça, on voit déjà. Il n'y a pas trop de déco, mais il y a un mur en brique. Donc, c'est déjà...
Un petit mur en brique.
ça peut le faire. Ouais.
Voilà, rien qu'avec la fenêtre derrière, on s'imagine des trucs. C'est chouette. Merci beaucoup, en tout cas. Mon cher Fabien, je te laisse...
Avec grand plaisir, merci à vous.
Merci beaucoup de ton temps. Mon cher Fabien, je te laisse l'honneur de poser la première question.
La première question, donc tu as fait des études, il me semble, c'était LEA, c'est ça, ou LLCE
LLCE, c'est ça, ouais. Donc c'est un LLCE. Peu l'autre alternative.
Oh, j'ai fait ça aussi, moi.
Ah ouais? Ah bah voilà. J'ai beaucoup aimé, moi.
J'ai fait ça, oui, à la fac pour m'amuser, on va dire. Mais
pareil,
pareil.
J'ai fait ça. J'ai fait ça une année. Pour l'anecdote, on m'a dit, il te reste un an de bourse. La fac m'avait dit ça. Hein. Il te reste un an de bourse. Inscris-toi pour une filière et je m'étais inscrit là-dedans.
Moi, la sans bonne nouvelle m'avait recalé pour l'audiovisuel parce que j'aurais dû continuer là-dedans. Et puis finalement, j'ai choisi ça. Je ne sais pas pourquoi encore, mais bref. Les parcours. Bref, parle-toi.
Ouais, bref. Et donc après, ta licence, tu es parti, pas à New York, dans l'État de New York, pour une année où tu as étudié le journalisme, c'est bien ça?
Oui et non. En fait, c'est pas après la fac, c'est pendant la fac. C'était une année d'échange.
D'accord.
Donc c'était ma troisième année en LLCE, où on a cette possibilité de partir à l'étranger avec une IRC partenaire. Et donc j'ai pas vraiment étudié le journalisme. Mais en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que puisque les universités américaines sont très différentes, on peut un peu choisir les cours qu'on veut faire. Et après, ça doit être validé par la fac française en disant que c'est bien équivalent. Sauf que comment faire des cours équivalents à la LCE aux États-Unis, c'est pas très évident. Donc, on va dire, j'ai un petit peu triché, entre guillemets. Déjà parce que les crédits sont pas du tout pareils. Aux États-Unis, il faut prendre 4 cours. Là où en France, on a peut-être, je sais plus combien, mais on a énormément de cours différents et moins d'heures dans chaque cours. Donc, il faut choisir ce qui correspond le mieux. Et moi, j'avais pris des cours de journalisme pour correspondre aux cours de préparation professionnelle, un truc comme ça. Puisque je voulais faire du journalisme, j'ai pris quelques cours de journalisme là-bas. Et voilà, c'était assez libre. Donc, pour correspondre aux cours de littérature, j'avais pris un cours de science-fiction. Enfin, c'était un peu. Voilà, j'ai fait plein de choses en même temps. Donc, en soi, j'ai juste une licence LLCE, mais j'ai pu suivre plein de cours différents, qui étaient assez intéressants.
D'accord. Et c'était quelle université?
C'est l'université de New Paltz. Donc, c'est la State University of New York qui est la. L'université publique de l'État de New York, ils ont des branches un peu partout. Et donc, c'est dans la petite ville de New Paltz, qui est à peu près 1h30 de la ville de New York.
D'accord. J'imagine que pendant ton année, tu te rendais souvent à New York.
Ouais. Il y a des lignes de bus directes pour environ $20 qui emmenaient directement en ville. Donc, ça prend 1h30, 2h. Donc, ouais, souvent le week-end, j'aimais bien aller là-bas pour la journée ou pour le week-end.
D'accord. Ouais, super. Et donc après, j'ai vu que tu avais une petite expérience à Orlando.
Exact, oui.
Chez Walt Disney.
C'est ça. Donc encore une fois, super opportunité grâce à ce programme d'échange. Avec ce visa étudiant aux États-Unis, on peut faire après ce qu'ils appellent un academic training, qui est en gros une expérience professionnelle qui correspond au nombre de mois qu'on a passé aux États-Unis. Donc moi, j'avais un visa étudiant de 10 mois, donc je pouvais travailler pendant 10 mois à partir du moment où ça correspond à ce que j'ai étudié. Encore une fois, moi, j'ai étudié l'anglais, donc bon, on peut un peu on peut tricher un petit peu. J'ai dit à mon prof à la fac qui devait valider le document, si je travaille pour Disney, je parlerai anglais tous les jours et en plus, on va suivre des cours, etc. etc. Et donc, c'est un programme qui s'appelle le College Programme que beaucoup d'Américains peuvent faire, soit pendant la fac, soit après la fac, qui est, ils vendent ça un peu comme un stage ou comme une expérience. Ils disent qu'on peut suivre des cours, etc. En vrai, c'est juste un boulot mal payé pour Disney. Mais beaucoup de gens le font parce que c'est logé, parce que ça permet d'avoir une première expérience pro et puis surtout d'aller dans les parcs quand on veut. Donc, c'est assez fun. Donc, moi, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le journalisme, mais ça n'allait pas du tout m'aider pour mon avenir. Mais j'aime beaucoup Disney, j'aime beaucoup les parcs. Donc, je l'ai fait pour le fun. Si j'avais déjà fait avant pendant 2 mois pour un programme d'été et j'avais envie d'y retourner. Et donc, j'ai fait ça pendant 8 mois à peu près.
Je tombe souvent sur les annonces de Disney Orlando qui cherche beaucoup de cuisiniers.
Exactement, enfin,
j'ai programmé dans toutes mes applis pour la cuisine. Mm-hmm. Et effectivement, en tête de gondole, quoi, en annonce ponceau, je cherche beaucoup de cuisiniers, d'employés polyvalents de restauration aussi.
Exact. Ça, c'est un autre programme, mais c'est très bon à savoir pour les gens que ça intéresse. Ils ont ce programme où ils envoient des Français pendant un an dans leur parc de Epcot, parce qu'ils ont un pavillon français là-bas avec des restos français. Et c'est un super programme aussi, ça permet d'y aller pendant un an, c'est logé, etc. Donc c'est assez cool aussi.
On ne sait pas du tout qu'ils faisaient ça, c'est chouette. Voilà.
C'est une très bonne opportunité. Et pour tous les gens qui veulent partir aux États-Unis, en général, c'est une porte d'entrée assez facile.
Ouais, carrément, c'est bien.
Bon, apparemment, c'est logé, c'est assez précaire.
C'est pas dingue. Mais je crois
Ouais.
qu'ils ont changé depuis par rapport à l'époque où j'y étais. Maintenant, ils ont des nouveaux locaux qui sont un peu plus comme un campus américain. Moi, à l'époque où j'y étais, c'était des grands appartements vraiment à l'américaine avec des grosses cuisines et tout. Mais tu partages ta chambre avec deux autres personnes, donc faut aimer ça. Il faut pas trop aimer la vie privée, quoi.
J'étais tombé sur des vidéos. Bon, je fais aussi attention à ce qu'on veut me montrer, où c'était plus petit qu'une chambre d'étudiant. C'était des trucs de 7 mètres carrés tout seul. Mais je pense que ouais, y a un peu de tout. Je pense qu'il peut y avoir un peu de tout là-bas. Et ensuite, après, tu es revenu en France?
C'est ça, donc mon programme s'est terminé en 2020. Mon visa a expiré, donc j'ai dû revenir. Et après, on sait tout ce qui s'est passé, donc je suis resté en France. J'ai annulé un peu mes projets de. Je voulais revenir aux États-Unis, mais forcément, j'ai dû mettre ça en pause.
Et c'est là que tu rejoins Bangumi.
Bangumi, ouais. Si j'avais beaucoup regardé Quotidien pendant le confinement, du coup, parce que mes parents regardaient beaucoup. Moi, je regardais à l'époque du petit journal, et après, quand je suis parti aux États-Unis, forcément, j'ai arrêté de regarder la télévision française. Et j'avais beaucoup regardé. Je me suis dit, ah, tiens, c'est sympa ce qu'ils font. Et il y avait des élections américaines qui arrivaient. Donc, je les ai contactés. Et c'est grâce à mes vidéos sur YouTube, en quelque sorte, qu'ils ont pu voir que je pouvais faire le boulot. Et que c'est comme ça que je suis arrivé là-bas. Fin 2000, été 2020, du coup, pour la saison, la rentrée 2020-2021.
Okay, parce que ta chaîne YouTube date hein, quand même, hein. Ça fait plusieurs années que tu fais ça
Ouais,
déjà.
c'est ça. J'ai commencé quand j'étais au lycée, je crois, dernière année de lycée. Ça va faire 8 ans, 8-9 ans.
Ouais, c'est
8 ans,
ça.
je crois.
Je suis allé voir tout à l'heure voir les plus anciennes. Ouais, c'était ça, 7-8 ans. Et donc tu as été un peu au culot chez Quotidien.
Ouais, moi j'ai pas du tout de contact, comme j'ai pas d'école de journalisme non plus. J'ai cherché un peu qui étaient les gens responsables, etc. J'ai cherché leur adresse mail. J'ai envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails sans réponse. Je pense que j'étais très chiant. Je m'en suis excusé plusieurs fois. Mais finalement, j'ai eu une réponse, donc ça a payé.
Non, on fait pareil avec nos invités.
Bah voilà, ça marche, c'est ce qui compte.
Ouais. Et donc après, tu es resté 3 ans. Alors, je regarde toujours beaucoup Quotidien, mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, je me souviens de tes chroniques, mais je me souviens plus si c'était plus tourné histoire ou histoire des États-Unis.
Pas vraiment des États-Unis. À l'époque où je bossais, donc les 2 premières années pour le petit cul, il y avait beaucoup de sujets américains quand même, parce que
Ouais.
c'était beaucoup de pop culture. Et la chronique que j'ai faite, c'était surtout avec beaucoup d'archives, donc c'était un peu prendre recul sur l'actualité. Donc un peu dans le même style de ce que je fais sur ma chaîne, mais sur des sujets français ou internationaux. C'était en 3 minutes, beaucoup de recherches d'archives pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui en quelque sorte, ou prendre du recul.
Et au même moment, tu as participé aussi à un documentaire sur Volodymyr Zelensky,
Ouais, c'est ça.
pour TMC. TMC et LCI, il me semble. C'était en février, au début de la guerre, il me semble.
Bah c'était assez fou aussi. En fait, c'était quelques semaines après le début de la guerre, je pense, où beaucoup de gens parlaient de lui, alors que la plupart de l'Europe ne le connaissait pas quelques
Non,
semaines
on ne
avant.
connaissait pas, non.
Et donc, ils ont eu cette idée, effectivement, de faire ce documentaire qui devait être fait très, très vite. Et donc, on a dû le faire en à peu près une semaine, je pense, avec une toute petite équipe. Pour le coup, ils m'ont pas choisi moi parce que j'étais meilleur que les autres ou quoi que ce soit, mais je faisais partie de l'équipe du petit cul. Et donc, c'est l'équipe du petit cul qui a travaillé dessus. Willy Papa, Nicolas Fresco et donc moi qui étais le troisième bras entre guillemets de la chronique. C'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler dessus et c'était assez intense. J'ai pas beaucoup dormi cette semaine-là.
Et du coup, c'est un peu finalement par hasard que tu t'es retrouvé à la télévision, chez Quotidien. Enfin,
Absolument.
c'était pas trop. En fait, en gros, tu regardais l'émission, tu t'es dit, ouais, c'est cool, pourquoi pas bosser là-bas. Et puis, t'avais pas de plan de carrière vraiment établi encore à l'époque, quoi.
Pas du tout. À ce moment-là, moi, je reviens de, comme j'ai de Disney World. Mon boulot, c'était de faire le ménage dans le parc. Donc, bon, vraiment, il n'y a rien qui me. Ça n'a rien à voir avec la télévision. Et le lien qu'il y avait, c'est que je faisais des vidéos sur YouTube depuis plusieurs années déjà. Et donc, il y avait quand même une attirance pour l'audiovisuel plus que pour la presse écrite ou même la radio. Donc, ça s'est fait un petit peu naturellement, entre guillemets. Et finalement, c'est la seule expérience que j'ai eue dans un grand média. Parce qu'aujourd'hui, je ne travaille pas non plus avec des médias. Donc, ça s'est fait vraiment par hasard. Et tout ce que j'ai pu faire là-bas, c'était un peu par hasard aussi. Hein.
Ouais, parce que là, tu es totalement indépendant. Tu ne travailles pas
Ouais.
pour... Ouais, ok.
Ouais, c'est ça. Bah, on fait un petit bond dans l'avenir, du coup, mais quand je suis parti du quotidien, je me disais, parce que moi, j'ai toujours voulu être correspondant aux États-Unis, parce que j'aime beaucoup les États-Unis. Et j'ai contacté plusieurs médias en disant, je pars à New York, si vous cherchez un journaliste, etc. Sauf que les gens ont déjà leur contact, donc ils n'ont pas besoin de nouvelles personnes. Et en fait, bah, je me suis dit, bah, j'ai pas le choix, donc je vais juste faire mes propres trucs. Et finalement, ça a marché comme ça, donc j'ai pas besoin de travailler pour d'autres.
Parce qu'au début, tu n'étais pas sur le plateau, hein, tu écrivais, tu participais aux chroniques, mais c'est eux qui t'ont proposé, bon, bah, à partir de maintenant, tu vas faire une chronique, tu vas passer à la télé.
Non,
J'imagine que c'est un peu
c'est moi qui ai
stressant.
poussé un petit peu.
Ah,
C'est moi qui ai
d'accord.
poussé un petit peu. En fait, ça faisait 2 ans que je faisais cette même chronique et j'ai tendance à comment dire,
À te lasser vite.
à vouloir aller vite, ouais.
Ouais.
Et donc, au bout de 2 ans, j'ai dit, bon, bah, c'est un peu la même chose et tout. J'ai envie de faire de nouvelles choses, d'avoir des nouvelles expériences. Et je me suis dit, bah, je voyais plusieurs personnes qui faisaient ça, qui proposaient des pilotes, etc. Donc, je me suis dit, je vais le faire aussi. Ils ont été très enthousiastes. Enfin, pour le coup, j'ai été agréablement surpris parce que ils m'ont vraiment aidé sur le sujet. C'était à partir du moment où j'ai proposé quelque chose, ils ont été à l'écoute. Et bon, pour ça, je suis quand même assez reconnaissant parce que c'est un gros step up, on va dire. Et donc, j'ai fait des essais. Ça s'est bien passé. Et moi, ouais, c'était sur les 2 derniers mois de la saison, je pense. Et après, voilà, la prochaine rentrée, j'étais à la télévision. J'ai pas vraiment eu le temps de m'y préparer, on va dire, parce que effectivement, c'est assez stressant au début. Et ça s'est fait comme ça. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y a eu pas mal de changements dans l'émission et finalement, ils ont annulé plusieurs chroniques dont la mienne. Mais c'était une courte et intense aventure qui a été assez sympa.
Ouais, donc c'est pas de ton fait que tu as arrêté, c'est voilà, le fait que l'émission, ils ont remanié des choses et que...
C'est ça, ouais.
Ok.
C'est devenu. Ils ont laissé beaucoup plus de place aux invités et un peu moins en chronique. Je suis arrivé un peu à un moment où l'émission changeait beaucoup. Ils essayaient beaucoup de choses différentes. Moi, je faisais partie de ces essais-là et finalement, ça a pas duré très longtemps. Ouais, je connais pas toutes les raisons non plus, mais
Bah,
en tout cas, c'est fait comme ça.
c'est vrai qu'en plus, enfin moi, pour avoir regardé comme beaucoup de fois, il y a eu cette période Covid où du coup le plateau était complètement fermé, etc. Où il n'y avait personne. Donc finalement, les invités, c'était peut-être un peu plus délicat, forcément. Et donc voilà, peut-être qu'ils ont voulu effectivement remanier. Mais bon, en tout cas, voilà, je pense que c'est une expérience, bien sûr, qui toi a
C'est une belle
été
expérience, ouais.
très, très enrichissante. Et puis voilà, je pense que tu en garderas des bons souvenirs quand même.
Ça fait des bons souvenirs, ouais.
Ah,
Je prends et je passe à autre chose et je fais mes d'autres projets, mais je garde ça en tête.
c'est quand même une des émissions les plus suivies à partir de 19h, enfin en Access Prime. On dit ça, Access Prime Time?
Ouais, c'est ce qu'ils disent,
19h?
ouais.
Ouais.
Apparemment, ouais.
Ah, tu maîtrises, toi.
J'ai jamais trop compris, mais je crois que c'est les mots qu'on utilise.
Bah, c'est le pré Prime, quoi. Avant
Oui, c'est ça, oui.
20h, quoi. L'avant 21h, plutôt.
Hey, tu veux te placer, Fabien?
Ah, j'aurais pas assez le culot. Puis je pense pas que j'ai autant de talent.
T'aimerais bien faire une petite chronique chez Hanouna, moi. Non?
Ouais,
Tu vois pas?
je mettrais des coquillettes dans le slip, mais. Mais donc après quotidien, c'est son. Et c'est là que tu te dis, faut que je reparte à New York ou
C'est
comment
ça.
ça
Alors,
s'est mis?
il y a d'autres facteurs. Je vais pas faire genre le gars comme ça qui part tout seul à l'aventure. Ma copine habite à New
Avec ton
York,
sac à
donc
dos et tout.
il y a quand même. Voilà, j'étais pas tout seul. Ma copine habite à New York et comme moi, je travaillais chez Quotidien. c'est le travail qui me faisait rester en France en quelque sorte. Y a eu le Covid, etc. Donc on était à distance pendant un moment. Et moi, je restais chez Quotidien. Et quand les frontières américaines ont rouvert, c'était novembre 2021, je crois. À chaque vacances qu'on avait chez Quotidien, donc c'est à peu près sur les vacances scolaires, je partais à New York pour qu'on puisse se voir. Et en même temps, bah, moi, ça me faisait. J'allais aux États-Unis une fois tous les 2 mois presque. J'avais passé l'été aussi, tout l'été là-bas. Donc, j'avais un peu déjà un pied à New York et forcément, j'avais envie d'y aller pour la retrouver. Donc, quand la chronique a été annulée, j'ai un peu vu ça comme une opportunité de me dire, bon, bah là, c'est un peu le moment de partir. Plutôt que de trouver un travail en France, autant juste partir maintenant. Et donc, ouais, j'en ai profité. J'ai fait un visa journaliste, du coup, pour partir là-bas. Et j'ai contacté pas mal d'agences de presse, etc. Ça, comme je disais, ça menait nulle part. Et je me suis dit, bah, je vais me consacrer à YouTube. Et pour la première fois, j'avais le temps de faire des vidéos, ce que je n'avais pas eu depuis très, très longtemps. À l'époque où je bossais chez Quotidien, je me rappelle, j'ai dû sortir 2 vidéos dans l'année, je crois, quelque chose comme ça. Donc,
Ouais, bah,
j'ai enfin eu le temps de me remettre dessus et ça a
logique.
été très bénéfique. Donc
Parce que
voilà.
les vidéos, c'est toi qui les fais entièrement. Enfin, t'as pas d'équipe derrière toi. C'est toi qui fais tout, qui va sur le terrain, qui monte, qui. Donc,
C'est ça, je
oui.
fais tout seul. J'ai juste, je travaille avec une agence qui gère toute la partie commerciale, mais sur tout ce qui est création, je suis tout seul.
Gros boulot, hein,
Du
parce que c'est des vidéos d'une heure, hein,
coup.
plus d'une heure des fois.
À peu près, parfois, ouais. Entre 40 et 50 minutes en général.
Ouais.
Maintenant, c'est une activité qui te fait vivre. Enfin, tu arrives à vivre quand même
C'est ça. C'est
de ta passion, entre guillemets. Enfin.
encore les débuts, évidemment, mais en tout cas, j'ai pas d'autres activités à côté, donc c'est vraiment ça. C'est ma source de revenus principale.
T'as bien, c'est chouette.
Et donc, oui, parce que le podcast s'appelle Raconte-moi New York. Donc, là, tu arrives à New York. Raconte-nous un petit peu ta vie à New York, dans quel quartier tu habites.
Donc comme c'est New York, je connaissais déjà un petit peu parce que j'avais fait des études dans le coin et j'avais fait beaucoup d'allers-retours l'année d'avant. Donc il y avait un peu ce côté retour à la maison parce que c'est une ville que j'adore et à chaque fois que j'y allais, quand je vais retourner en France, ça me faisait un peu mal au cœur. Donc là, il y a ce côté, bon, ça y est, j'y suis pour de bon. Dans quel quartier? Pour les premiers mois, j'ai trouvé une chambre à Brooklyn, dans le quartier de Crown Heights, qui est un quartier qui est hyper intéressant parce qu'il y a d'un côté une partie caribéenne et de l'autre côté une partie habitée par des juifs orthodoxes. Donc moi, j'étais vraiment à la frontière. Donc pour prendre le métro, je traversais cette rue où tout le monde est habillé en costume noir avec des très longues barbes et des chapeaux, ce qui est assez fascinant. Et
C'est
donc j'ai passé 2 mois là-bas.
le sujet de ta dernière vidéo, d'ailleurs.
Exactement, ouais. J'ai fait un reportage à ce sujet-là parce que c'est tellement incroyable en fait comme expérience. Et je savais que c'était dans le coin. Et en plus, mes propriétaires étaient une femme japonaise et un homme qui venait de Jamaïque, je crois, un Jamaïcain. Donc vraiment, quand on parle du melting pot new-yorkais, pour le coup, c'est vraiment ça. Et donc j'étais dans cette c'était une petite chambre, c'était une maison en fait. Les propriétaires habitaient en bas et moi j'étais une chambre à l'étage avec d'autres gens que j'ai trouvé, je sais même plus, sur un site internet. C'était un truc un peu, on s'envoyait un virement sur l'application du téléphone. Il n'y a rien de très officiel. Mais c'était une sous-location en fait, pas une location, une sous-location si quelqu'un partait pendant 2 mois. Donc moi c'était parfait, je pourrais rester là pendant 2 mois. Et ma copine étudiait à Columbia à ce moment-là, donc qui est dans Upper West Side, enfin au nord de Central Park. Ce qui fait que je passais beaucoup d'heures dans le métro entre le centre de Brooklyn et l'ouest de Harlem. C'est un peu plus d'une heure en général de métro. Et donc voilà, je vivais un petit peu entre ce quartier de Brooklyn qui est très résidentiel et le reste Et le reste de New York, souvent je travaillais à la bibliothèque publique de la 42e rue, pour ceux qui connaissent, qui est une bibliothèque magnifique. Je montais mes vidéos là-bas pour avoir un peu d'espace. Et voilà, j'étais le plus heureux du monde.
Ouais, Crown Heights, en tout cas pour les personnes qui qui connaissent pas vraiment, c'est limite au centre de Brooklyn en fait. Enfin,
C'est ça, ouais.
c'est pas très loin d'ailleurs de Prospect Park, d'ailleurs, pas très très loin.
Exact. J'étais à peu près 20 minutes à pied, je crois, de Prospect Park.
C'est ça, ouais. Et donc comme tu disais, oui, une grosse communauté caribéenne. Et d'ailleurs, peut-être qu'on sera amené à en parler, parce qu'on a déjà parlé d'émeutes à New York, celles où se sont déroulées notamment les émeutes de Crown Heights
Exact, ouais.
en 91, qui étaient des émeutes à caractère racial. Et donc, ça sera potentiellement le sujet d'un futur épisode, parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment à dire à New York. Mais en tout cas, voilà, un quartier riche en histoire. Je crois même d'ailleurs qu'ils font un carnaval là-bas tous les ans. Il y a un petit carnaval qu'ils font pour le Labor Day Carnival, voilà, qui est un carnaval entier également qu'ils font. Donc
Ah, c'est possible, je ne savais pas.
ça a l'air d'être un très beau quartier, effectivement.
C'est très riche, ouais. C'est assez, assez incroyable.
Et donc on était où? Et donc maintenant tu vis dans quel quartier?
Maintenant, je vis dans un
Oh.
quartier qui s'appelle Hamilton Heights.
On veut pas l'adresse, hein.
pas de problème. Bah, c'est grand, hein, donc, c'est un quartier qui s'appelle Hamilton Heights, qui est au nord-ouest de Harlem. Donc, il y a. Ouais, West Harlem, Hamilton Heights et Washington Heights juste au-dessus, là où il y a le George Washington Bridge.
Juste au nord de Columbia, quoi, de
C'est ça,
l'université de
ouais.
Columbia.
C'est ça. C'est autour de bah, la station de métro, c'est la 145e rue pour situer un petit peu.
Quand on fera un podcast avec toi dans quelques années, tu habiteras à côté de chez Marc Lévy.
Oui, on te le souhaite.
Bah après, moi, j'aime beaucoup ce coin, donc je sais pas. Même si je gagne beaucoup d'argent, peut-être que je
Mais
voudrais peut-être que je voudrais rester ici.
c'est bien parce que tu vois, là, bon, on en avait parlé avec notre autre invité la semaine dernière. Tu mets en avant finalement des quartiers que nous d'ailleurs, on n'a pas, enfin moi perso, que j'ai pas exploré. En tout cas, des choses dont on n'a pas spécialement parlé. Donc c'est bien. Tu nous donnes aussi d'autres pistes. Et voilà.
C'est ça, c'est un quartier moi que j'ai découvert parce que un peu par obligation, parce que les loyers sont très chers et forcément, bah, plus on monte dans le numéro de la rue, plus le loyer va être bas. Donc j'ai un peu découvert parce que j'avais pas trop le choix en termes de branche de loyer. Et finalement, c'était une très très belle découverte. C'est un quartier qui est très historique et je crois qu'il y a peut-être 150 ans, c'est là qu'habitaient les bourgeois qui voulaient vivre un petit peu loin de la ville et pour avoir un peu d'espace. Donc, il y a plein de petites maisons qui sont bah, les fameuses brownstones de New York, que je trouve toujours très belles. Beaucoup d'entre elles ont été converties en appartements, c'est là que j'habite du coup. Il y a plein de très beaux bâtiments avec l'architecture de fin 19e siècle, début 20e. Il y a des très beaux parcs, hein, c'est vraiment très sympa comme coin.
C'est un petit peu nous le fil rouge du podcast, c'est sortez, enfin, n'allez pas à Times Square et allez à Brooklyn, allez à Harlem.
La première fois, si, on peut vous autoriser, à la limite.
Ouais, aller dans le Bronx. Et à chaque fois qu'on a des invités, en fait, ils nous parlent d'un petit quartier où ils ont vécu, ou alors où ils ont pris une location pour une semaine. Et généralement, c'est autour de Manhattan. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on découvre des coins.
Exactement. Parce que forcément, je ne vais pas dire quelqu'un qui vient en vacances une semaine, mais enfin, tu n'as pas été à Hamilton Heights, ça n'a aucun
Ouais.
sens. Mais forcément, c'est des quartiers qu'on est amené à découvrir un peu par hasard, et c'est toujours des belles découvertes. Et pour les gens qui peuvent passer beaucoup de temps ici, c'est bien de pouvoir voir ça. Et la plupart des découvertes que je fais, c'est parce que je dois aller quelque part, et je me retrouve dans ce quartier un peu par hasard, et c'est comme ça que j'y découvre des choses.
On en parlait avec notre invité la semaine dernière, qui lui va à New York plusieurs fois par an, hein, maintenant qu'il est à la retraite. Voilà, il disait que il faisait un nouveau coin à chaque fois, il découvrait des choses exceptionnelles. Alors, si votre projet c'est de partir une semaine à New York, juste une fois comme ça, Allez voir les trucs touristiques, mais si vous aimez y aller régulièrement, sortez un petit peu de Manhattan, allez explorer ces quartiers. Et y a des choses tout aussi magnifiques qu'au centre de Manhattan.
Par contre, c'est quelque chose que je peux recommander pour les gens qui cherchent des logements, parce que enfin, maintenant que Airbnb a été interdit, c'est plus compliqué. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hôtels dans le coin, mais c'est, ou en tout cas pour les gens qui viennent pour des études ou ce genre de choses, parce que c'est très proche du centre de Manhattan finalement. Y a, avec les métros express, moi je suis à Times Square en une vingtaine de minutes à peu près, alors que sur la carte, ça paraît très très loin. Et parfois, c'est mieux d'être au nord de Harlem, par exemple, et les gens ont toujours un petit peu peur s'il y a des a priori à cause de ce que c'était il y a 50 ans. Mais on est beaucoup plus proche du centre de Manhattan, en tout cas, que certains du quartier de Brooklyn ou Queens.
Ouais, donc un loyer forcément qui est quand même moins onéreux que d'autres quartiers qu'on
C'est ça.
connaît bien.
Ça commence à changer. Ça commence à... Je dois admettre que. Il y a un petit coup de culpabilité aussi, parce que j'en suis responsable, mais il y a une vraie gentrification qui se fait ici, et ça se voit même depuis, j'ai aménagé il y a environ 6 mois, et en 6 mois, je vois déjà beaucoup de différences. Il y a un Starbucks qui a ouvert déjà dans les 6 mois.
Ah bah ça
Ça
y est,
dit beaucoup de
c'est
choses.
fini.
Je pense que c'est fini, et
Rare
je
les
pense que c'est un
Starbucks,
peu de ma faute.
franchement.
Bah, c'est
Oh.
ça. Quand ça arrive, on sait ce que ça veut dire. Et on voit la différence de population aussi. Il y a des camions de déménagement qui arrivent tous les jours. Et tous les jours, c'est souvent des étudiants blancs, peut-être de Columbia ou des gens comme à peu près ma tranche d'âge. Et je fais partie aussi de ces gens-là, donc je ne vais pas le critiquer, mais c'est parce que les loyers augmentent. Nous, on fait partie des gens qui ne peuvent pas payer les loyers trop chers de Brooklyn, mais qui peuvent quand même payer un peu plus cher que les gens qui étaient déjà là avant. Et finalement, ça fait un petit changement démographique. Et je pense que dans 5-10 ans, ça sera pareil que certains quartiers de Brooklyn, comme Williamsburg, où les prix ont explosé.
De toute façon, on l'a vu dans plusieurs épisodes qu'on a fait sur l'histoire de New York, que le centre historique, on va dire, autour de Wall Street, la première colonie, n'a cessé de se. Enfin, les populations ont cessé de se déplacer vers le nord. Tous les quartiers sont déplacés vers le nord et il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête un jour et ça continue encore maintenant. Donc,
Ouais, c'est sûr. Tu disais que du coup tu avais un visa de journaliste. Qu'est-ce que ce visa t'apporte de plus qu'un visa classique finalement? Est-ce que c'est un visa sur lequel tu peux te permettre de rester plus longtemps? Qu'est-ce que ça t'offre comme chose en plus qu'un visa classique où finalement c'est que le titre qui change et.
C'est pour la durée, parce que justement, avoir un visa aux États-Unis, c'est très difficile. Ce que ça apporte, c'est que quand on est journaliste, c'est facile à obtenir, parce qu'il suffit de prouver qu'on est journaliste et qu'on vient ici pour travailler pour des médias français ou en tout cas pour une audience française. Ce qui est mon cas, parce que je vais faire des reportages ici, ou même quand je tourne pas directement à New York, le fait d'être à New York me sert quand même pour mon travail. Donc, c'est assez facile à obtenir. On n'a pas besoin d'un sponsor comme la plupart des visas américains. Par contre, j'ai pas le droit de travailler aux États-Unis. Donc, ils me donnent juste le droit d'être ici, comme un visa touristique, par exemple. Mais je peux rester ici pendant plusieurs années. En fait, ça va être déterminé en fonction de combien de temps j'ai besoin de travailler, pour un maximum de 5 ans. Ce qui est très difficile à obtenir autrement, parce que sinon, il faut un sponsor américain ou alors il faut un visa touristique, mais c'est seulement 6 mois, donc on ne peut pas rester sur le long terme. Donc pour moi, c'était une des seules solutions qui me permettait de rester ici.
Ok, ouais,
Oui.
du coup, ça t'offre un peu plus de possibilités, mais et parce que tu disais que du coup tu vivais avec ta copine qui est française ou qui est américaine?
Non, qui est japonaise pour le coup.
Ah
C'était.
d'accord,
Je veux bien faire les choses compliquées, mais
Et donc,
aucune des deux.
elle est étudiante à Columbia. D'ailleurs, on a fait un épisode sur Columbia, je ne sais plus
Sur les
quelle
universités new-yorkaises.
université, pardon. Ouais, du coup, ok. Et donc, vous arrivez effectivement à vivre ensemble. Alors, souvent, c'est en tout cas le cas des invités qui sont expatriés là-bas. Est-ce que tu arrives quand même à avoir une vie new-yorkaise où finalement ton travail t'occupe beaucoup de temps et tu n'as pas finalement vraiment le temps de faire du tourisme. Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que souvent les gens qui vivent à New York nous disent voilà, bah, c'est le travail, le travail, le travail. Et finalement, on n'a pas beaucoup de pauses, pas beaucoup de temps en tout cas à consacrer à d'autres activités. Toi, ça se passe comment du coup?
Moi, je trouve que oui. Après, je pense qu'on n'a pas tous la même définition non plus. Moi, je suis quelqu'un qui j'aime bien rester chez moi, je fais pas beaucoup de sorties, etc. Donc, forcément, je vais pas dans les clubs new-yorkais ou ce genre de choses, mais j'arrive quand même à profiter pour ne serait-ce qu'un jour par semaine, me dire je vais sortir et faire une activité que j'ai encore jamais faite. Et je pense que c'est parce que j'aime beaucoup New York, j'ai toujours aimé New York et j'essaie de garder cette petite magie. Je vais faire en sorte qu'elle ne parte pas. Évidemment, il y a des semaines où j'ai tellement de travail que je ne sors pas de chez moi. Surtout moi, je travaille de chez moi, donc je suis un peu cloîtré dans ce petit studio. Mais quand même, ce qui est vrai, c'est que j'explore pas énormément de choses. Ce que je vois principalement, c'est le centre de Manhattan. Si maintenant ma copine, du coup, n'est plus étudiante, mais elle a un visa de travail, donc elle travaille au centre de Manhattan. Donc, je vois beaucoup le centre de Manhattan et je vois beaucoup Harlem. Je vais pas non plus à Brooklyn toutes les semaines faire des friperies ou ce genre de choses. Mais quand même, ma copine travaille pour un théâtre, donc j'ai l'opportunité de voir certaines pièces, des fois des comédies musicales. Je pense que le plus gros problème, c'est que les choses coûtent cher, évidemment. Donc, il y a toujours le problème du budget. Mais ne serait-ce que se dire, on va se balader dans un parc quand il fait beau, aller à Central Park ou ce genre de choses, ça, j'arrive quand même à le faire. Donc, je pense que j'y arrive. En tout cas, selon ma définition.
Non, c'est bien parce que en général, oui, c'est vrai que enfin, tu confirmes, Fabien,
Beaucoup
les gens qui vivent
d'amitié.
là-bas.
Après, ça dépend aussi de l'emploi.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà.
Quand tu habites à Brooklyn, que tu travailles au centre de Manhattan, entre le métro, tu vois, des fois, et puis des fois, c'est des gens qui travaillent 6 jours sur 7. Le 7e jour, ce que nous disait Pascal la semaine dernière, il avait retrouvé une de ses anciennes élèves qui, le dernier jour, son jour de repos, finalement, restait à la maison, quoi.
Oui, tout le monde a le temps. Oui.
En fait, j'essaie. Bah après, c'est aussi une chance que j'ai de pouvoir travailler un peu où je veux et de pas avoir un bureau fixe. Mais j'essaie d'incorporer ça dans le travail en me disant, bah, aujourd'hui, je vais essayer de travailler dans une bibliothèque, dans le West Village, par exemple, ou ce genre de choses. Je vais pas faire ça toutes les semaines, mais des fois, ça m'aide un peu à sortir et ça m'aide aussi pour mon travail parce que c'est plus inspirant ou des fois, ça me vide un peu la tête. Le fait de marcher dans un quartier où j'ai pas forcément l'habitude d'aller. J'essaie aussi de prendre des photos. Je suis pas du tout photographe, mais juste me balader avec un appareil photo et me dire aujourd'hui je vais à cet endroit juste prendre plein de photos. Donc je me pousse un peu, même si c'est pas évident tous les jours, je me pousse quand même à le faire et essayer de ne pas être. Je veux pas être lassé de cette ville. En fait, c'est une ville qui me plaît toujours autant que j'aime toujours autant. Donc moi, voir l'Empire State Building, ça me fait toujours quelque chose, même si je le vois tous les jours, c'est pas grave, ça me fait toujours quelque chose. Et même si je vais pas non plus, il y a plein d'endroits que j'ai pas explorés, je vais pas explorer un nouvel endroit toutes les semaines, mais ça me fait toujours un petit quelque chose de même travailler dans un Starbucks à côté de l'Empire State Building, ça me fait quand même du bien.
Et tu New York, c'est aussi une passion, du coup, comme tu le disais. Tu te vois vivre ailleurs, alors rentrer en France, peut-être pas, mais est-ce qu'une autre ville aux États-Unis ou même, je sais pas, aller si ta copine un jour décide de rentrer au Japon ou quoi, j'en sais rien. Est-ce que tu te vois un jour aller ailleurs ou c'est vraiment les États-Unis qui est quand même ta passion de base et on sent qu'il y a plus que l'aspect métier, c'est quelque chose de très fusionnel. Tu te vois vivre ailleurs ou.
C'est une très bonne question que forcément je me suis déjà posée plein de fois. En fait, il y a toujours l'aspect familial qui est à prendre en compte. Si c'était vraiment, si j'avais un accès au Concorde illimité, peut-être que j'adorerais. New York serait la réponse évidente. Maintenant, évidemment, il y a toujours cette idée de peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'avoir accès plus facilement à ma famille et peut-être rentrer en France ou alors même au Japon. Tokyo, c'est une ville que j'ai visitée, que j'adore. J'aimerais beaucoup y vivre un jour. Mais sur le long terme, en tout cas, la ville qui me parle le plus, où je me sens le plus chez moi, je pense que c'est New York. J'ai beaucoup aimé habiter à Paris, mais il manque un truc qui me pousse à sortir et de me dire j'aime cet endroit.
Ne nous lance pas sur Paris.
Voilà, c'était très plaisant, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Et même aux États-Unis, bon, j'aime beaucoup les États-Unis, mais j'arrive pas à trouver d'endroit où je me vois vraiment vivre sur le long terme. New York a un truc qui fait que c'est New York. Et après, évidemment, un jour, peut-être que en vieillissant, je voudrais avoir une maison, j'en aurais marre de la grande ville, ce genre de choses, ça, je ne l'exclus pas. Mais en tout cas, l'état de New York, c'est un endroit qui me parle, où je me sens bien. Je sais que la Californie, par exemple, c'est très beau, mais ça me fait moins rêver. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est juste. Bah forcément, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas le même paysage, ce n'est pas la même chose. Donc, moi, d'un point de vue personnel, ça me parle un peu moins. La Floride, c'était très sympa aussi. Il fait chaud et tout, c'est joli, mais bon, c'est très plat. Il faut prendre sa voiture pour aller partout. Ce n'est pas forcément le mode de vie qui me parle le plus. Donc, moi, comme ça, avec le cœur, je dirais que je me verrais vivre à New York sur le long terme. Maintenant, la vie peut voir les choses différentes, mais bon, en tout cas, je trouve que c'est une ville pour moi qui est unique. Même une ville comme. J'ai jamais été à Chicago, mais je sais qu'il y a d'autres grandes villes aux États-Unis. Mais il n'y a pas l'Empire State Building là-bas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais
Ah
c'est un
bah oui,
peu.
non, mais bien sûr, oui, bien sûr.
Ça se ressemble beaucoup.
Je vois
C'est
très
aussi
bien,
une
ouais.
grande ville. Il y a aussi des transports. C'est le même mode de vie, mais ce n'est pas New York. Et pour ça, je pense que c'est difficile d'aller ailleurs.
Clairement.
Totalement d'accord avec toi pour l'Empire State Building.
On est d'accord.
Calme-toi, Fabien.
Alors, ta chaîne YouTube, tu parles de toutes les États-Unis, hein, tu fais des sujets très larges, mais il y a quand même pas mal de sujets sur New York, dont ton
Ouais,
dernier, ouais, dont ton
la passion
dernier,
se voit.
ouais, ça se voit. Moi, je l'ai découvert il y a, je crois, quand on a commencé le podcast, parce que généralement, quand je préparais des épisodes, je cherchais sur YouTube. Pas mal de choses. Et j'ai remarqué que t'as vu, alors, je sais pas, hein, j'ai regardé assez vite fait, je crois que c'est ta vidéo qui a le plus marché, c'est sur la mafia.
Ouais, c'est une des vidéos qui a le plus marché. Ouais.
Parce
Elle
que nous,
fait du top 3, je pense.
notre épisode sur la mafia, c'est l'épisode qui a le plus marché.
Ouais, je sais pas pourquoi, mais les gens ont un truc pour ça. Je m'y attendais pas.
Ça fascine les gens, ouais, c'est vrai.
Ouais, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, on avait même fait une vidéo, parce qu'avant on mettait la vidéo du podcast sur YouTube, c'est la vidéo qui a le plus marché, c'est un truc de dingue. Et c'est la première fois qu'on reçoit notre concurrent, finalement.
Bon, on va pas dire comme ça, on est collègues.
Voilà. Parce que tu as également un podcast qui
C'est ça.
s'appelle Fire Escape.
C'est ça qui a été renommé il y a pas longtemps.
Ouais, en hommage à ces escaliers. Typiquement new-yorkais.
Exact. Où on aime bien s'asseoir et discuter pendant des heures.
Ouais.
C'est l'idée.
Où tu reçois, bah, comme nous, des invités, des Français expatriés ou des gens qui ont vécu aux États-Unis. Tu as fait une petite pause, hein, dans le podcast, j'ai vu, un peu comme pour ta chaîne
Une
YouTube.
grande pause, ouais. Ouais, en fait, je faisais ça à l'époque où je bossais chez Quotidien. Je me suis rendu compte que c'était un défi beaucoup trop grand pour moi. J'ai arrêté. Et là, j'ai repris. Maintenant que j'ai plus de temps, j'ai arrêté pendant peut-être 2, 3 ans, je pense.
Ça prend du temps, hein. On sait ce
C'est pas facile.
Non, ça prend du temps. Et du coup, dans ton chemin de carrière, bon, je sais pas si tu as un plan de carrière établi, c'est pas obligé d'ailleurs, mais du coup, ta vidéo, enfin, ta chaîne YouTube, tu te vois après évoluer sur d'autres choses, retourner à la télé, faire de la radio.
Moi, j'adore ce qu'on peut faire sur Internet. Donc, encore une fois, je pense que ça dépendra pas de moi parce que le système évolue et les plateformes évoluent elles aussi. Mais je pense vraiment que j'aimerais rester sur Internet. Ou alors, si je n'arrive plus à vivre d'Internet, avoir quelque chose à temps partiel pour m'aider ou autre à la télévision, pourquoi pas. Mais il y a une certaine liberté sur Internet quand même que j'aime beaucoup. Comme vous l'avez dit, faire une vidéo sur la mafia, finalement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je ne dis pas que c'est impossible à la télévision, évidemment, il y a plein de chaînes qui proposent des super documentaires avec plus de moyens. Mais le fait de pouvoir faire des sujets qui me plaisent le plus, c'est quand même un luxe énorme. Et rien que pour ça, moi, je me vois sur YouTube. Le podcast, c'est.
Ton producteur à toi aussi, donc voilà, tu peux.
Voilà. C'est ça, exactement. Et j'aime beaucoup ce côté un peu artisanal, on va dire. Je suis tout seul, j'aime bien faire du montage, j'aime bien faire des recherches, j'aime bien lire, chercher des informations, etc. Là où à la télévision, on est plus une pièce de la machine.
Oui, puis
Et
avec
moi,
un.
j'aime bien cette idée de tout faire moi-même. Je dis pas que je travaillerai jamais avec personne, mais ça me plaît bien de créer quelque chose, de voir le produit final, de me dire je l'ai fait moi-même. C'est une petite fierté aussi.
Et puis l'aspect télévision, je pense que ça doit être très difficile dans le sens où c'est très, ça doit être très timé, très. Tu peux pas, à mon avis, tu peux pas sortir du cadre comme tu veux, quoi. C'est
Exactement. Il faut
amené.
parler à une certaine audience aussi. Et il y a toujours ce côté-là de dire ça, c'est intéressant, mais ça n'intéressera pas ces gens-là. Ou alors ça, c'est expliqué plus. Ou ça, on va l'enlever, etc. Et là, il y a une liberté ici où je me dis, mais en fait, si j'ai envie de faire un chapitre de 10 minutes sur un truc dont tout le monde se fiche, mais moi, ça m'intéresse, je peux le faire.
C'est ça.
Et c'est un luxe quand même.
Bah, c'est vrai que c'est ça aussi.
C'est pour ça qu'on a fait le podcast. Hein,
Ah.
on fait les épisodes qu'on aurait aimé entendre. Hein.
C'est ça,
Exactement.
exactement.
Et parce que c'est vrai, bon, la mafia new-yorkaise, c'est assez, j'allais dire de niche, mais on n'entend jamais trop parler. Et pourtant, toi, tu sors une vidéo, elle fait quasiment 900 000 vues. Nous, à notre niveau, on sort une vidéo, je ne sais plus combien, enfin, et un épisode, c'est l'épisode qui a le mieux marché, mais ça veut dire que les gens, ils recherchent ça.
C'est ça.
Et ils ne le trouvent pas à la télévision. Donc, heureusement qu'il y a des gens comme nous, j'ai envie de dire. Ils
Je suis d'accord.
chercheront. Ils chercheront les
Exactement.
sujets. En plus,
Le conserver quelque chose. Hein.
c'est des sujets passionnants. J'en parle souvent avec Jean-Martial quand j'écris un épisode. Je sais plus sur quel épisode je te disais, je commence à lire un bouquin sur un sujet, et puis il parle d'une chose, et ben j'achète le bouquin qui parle de cette chose, et puis finalement je lis 4, 5, 6 bouquins pour un épisode. Finalement, je garde que 10% de ce que j'ai appris. Mais voilà, si je trouve ça, c'est vrai que c'est
Ouais,
super passionnant de préparer un sujet.
non, puis en même temps,
absolument.
je pense que ça a été développé aussi beaucoup dans les séries, dans les films. Il y a quand même des films, des séries emblématiques aussi autour de ça. Et du coup, je pense que les gens ont envie quand même de connaître un petit peu plus de choses. Et donc, peut-être qu'ils sont aussi en recherche de ce genre de thème. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce n'est pas des thèmes qui sont très, très développés, bizarrement d'ailleurs. Bon, tant mieux, quelque
Bah,
part.
c'est comme ta
Tant mieux pour
vidéo.
nous.
Ouais,
Oui,
une de tes vidéos que j'ai préférées sur les fast-food.
quoi.
Tu présentes toute l'histoire. Alors, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il y avait Whataburger s'était installé en France. Ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas du tout. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des sujets sur les fast-food ou les grandes marques en France, c'est tout de suite pour taper dessus, pour dire que c'est pas bon, etc. Mais il n'y a jamais personne qui fait bah, pourquoi ça existe, quoi.
Et en fait, j'ai l'impression qu'on n'ose pas en parler parce que ça nous donne une mauvaise image ou on n'ose pas dire qu'on aime ça. Même la France est quand même le pays qui consomme le plus de McDo en dehors des États-Unis.
Ça.
On en consomme plus que les Canadiens ou que les Britanniques. Donc, faut le dire, ça sert à rien de le cacher. Et d'ailleurs, dans la vidéo, je dis aussi pourquoi il y a des choses qui ne vont pas, etc. Je ne suis jamais là pour dire l'Amérique, c'est super et on aime l'Amérique et il n'y a que ça de vrai. Mais on ne peut pas nier le fait que les Français aiment les États-Unis. On regarde le
Évidemment.
box-office français
Bah
sur ces 10-20 dernières années. Il y a peut-être un, deux films français, d'ailleurs, Bienvenue chez les Ch'tis, et je ne sais plus c'est
oui.
quoi le deuxième, mais c'est tout. Et en fait, je pense
Bon.
que la sphère médiatique est concentrée dans un certain univers qui n'est pas forcément là où sont les auditeurs ou les spectateurs. Et c'est pour ça qu'il y a certains sujets qu'on n'ose pas traiter, comme si on avait peur de le dire ou. une espèce de fierté française un peu anti-américaine qui est encore assez présente, je trouve. Sauf pendant les élections. Je sais pas pourquoi les médias français adorent les élections, mais c'est tout. Et
Bon, il y a l'aspect Trump aussi, voilà, je pense qu'il a fait
voilà,
beaucoup
forcément, ça parle. Ça parle, ça fait parler.
de. Mais c'est vrai, c'est intéressant d'ailleurs ce que tu dis. Ce serait d'ailleurs intéressant qu'on fasse un épisode peut-être d'ailleurs sur Raconte-moi l'Amérique. Pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu ce sentiment que. Toujours un petit complexe d'infériorité en fait par rapport aux États-Unis. On peut pas s'empêcher pourtant d'aimer ce qu'ils font parce que comme tu l'as dit, les films bah c'est américain, on écoute de la musique américaine, on mange américain. Et pourtant en France on a toujours ce truc de la malbouffe, de la culture qui te salit un peu le cerveau, des conneries comme ça alors que c'est ridicule. Mais c'est vrai que oui, je sais pas pourquoi il y a cette espèce de préjugé. Sur ce pays, peut-être un petit complexe d'infériorité, peut-être.
C'est possible, et il y a un sentiment un peu anti-américain qui a toujours existé en France. En fait, dans toutes les vidéos sur lesquelles je travaille, c'est drôle, parce que même dans les livres américains qui en parlent, ils parlent de la France à un moment ou à un autre, parce que c'est le pays qui, exceptionnellement, s'est opposé à quelque chose. Même si, à la fin, on est aussi ceux qui adoptent le mieux. C'était le cas pour Coca-Cola, quand ça a débarqué après la guerre. Beaucoup de pays l'ont adopté, et la France, c'était l'un des seuls pays à avoir... des partis politiques qui étaient opposés à dire que c'était dangereux, etc. Alors, ils avaient peut-être raison, hein, c'est pas ce que je dis, mais malgré tout, à la fin, la France a fini par adopter Coca-Cola et adore Coca-Cola autant que les autres pays. Et moi, je suis pas là pour dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, mais le fait est que les Français ont fini par en boire, donc
Ah, ça c'est vrai.
on peut pas le
C'est
nier,
ça.
quoi.
C'est ça. Bah, comme pour Disneyland Paris. D'ailleurs,
Exact.
tu as fait une vidéo aussi dessus où tu en parles justement,
Exact.
où
Très
c'était
bon exemple.
la plus grosse menace pour notre pays.
Et c'est le lieu touristique maintenant,
Ouais, c'est pareil,
le
ouais,
lieu touristique le plus visité
ça
en
attire
France.
des millions et des millions de gens qui ne vont pas que forcément à Disney, hein. Ils passent aussi un ou deux jours à Paris. Donc ça. Et puis on voit tout ce qui s'est développé autour. C'est énorme, mais c'est ce côté franchouillard, un peu chiraquien, anti-américain, vin rouge,
Ouais.
un peu pareil, qui fait nous sentir un peu patriotes uniquement quand ça nous arrange.
C'est vrai.
Voilà. Enfin, uniquement quand il y a un McDo qui arrive, que finalement tu vas y aller.
Ah, c'est vrai.
Voilà. Tes enfants voudront y aller ou ils iront sans toi. Donc,
Non,
je
puis
pense
après,
que
enfin, c'est aussi, enfin, les gens voient aussi ce qu'ils ont envie d'y voir aussi. C'est pas parce que tu vas chez McDo que tu n'es pas obligé de cautionner ce qu'il y a dans ton McDo. Tu as juste envie de te
Bien
faire
sûr.
plaisir à un moment et puis voilà quoi. Enfin,
Bien sûr.
sans se prendre la tête. Nous, on aime New York, les États-Unis aussi au sens large. Après, on est les premiers à dire que tout n'est pas parfait.
Bien
Tout
sûr.
comme on est aussi capable de dire que chez nous, tout n'est pas parfait non plus, loin de là.
C'est ça. Il y a des gens qui ont un peu du mal à le comprendre, mais
C'est ça. C'était notre.
on peut être nuancé parfois. On n'est
Voilà,
pas
c'est ça.
obligé d'être à fond sur quelque chose.
C'était notre épisode pilote de Raconte-moi l'Amérique où on a bien dit voilà, nous on aime l'Amérique, on n'est pas aimer l'Amérique, aimer la culture américaine, c'est pas être forcément pro-américain à chaque fois.
Bien sûr.
Et ça, il y a encore des gens qui ont un peu de mal, qui ont un peu de mal avec ça, quoi.
J'ai eu une fois, moi, ouais, la réflexion de quelqu'un qui me disait, ouais,
On l'a déjà
toi,
dit.
New York et tout, machin. Bah ouais. Pourquoi
On
pas?
m'a déjà, on m'a déjà dit, ça, on m'a déjà dit, salut l'Américain.
Ah oui, c'est
Ben ça
ça.
toujours.
Oui, mais toi, tu vis à New York. Moi, j'habite à Troyes. C'est un peu, ouais.
Oui,
Mais
tu es peut-être le plus américain de nous, Arthur.
bah, ça fait pas si longtemps que je suis là, hein, donc on me le disait quand j'étais en France aussi.
Parce que tu parlais des élections américaines, c'est pour bientôt. Si un média t'appelle pour couvrir les élections, par exemple, parce que je sais que ils envoient toujours, je sais pas combien de correspondants partout. Tu serais chaud
Ouais, pourquoi pas. Mais si quelqu'un nous écoute, ils peuvent m'envoyer un mail,
ou
hein, mais
un appel?
après, j'ai aussi prévu de faire quelques vidéos sur ma chaîne, mais après, si ça peut intéresser des gens. C'est en fait ça le truc qui est un petit peu frustrant, c'est que j'ai envie d'en parler parce que tout le monde en parle et je me dis, je passe à côté de quelque chose. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a à dire? Je sais pas, quoi. Donc, C'est
Oui, plus que
forcément, ils
qu'on
envoient toujours
parle en
beaucoup de
France.
correspondants pour interviewer des gens, pour montrer des gens qui votent Trump, ils pensent ceci, etc. Bon, on a compris que Trump, il s'est présenté en 2016, donc maintenant on commence à avoir un peu l'habitude des mêmes reportages. Et c'est pas facile de trouver un angle qui n'ait pas déjà été fait, donc
C'est marrant
c'est un peu
d'ailleurs
délicat.
que notre pays s'intéresse autant à ces élections-là, alors que je pense qu'en France, enfin, aux États-Unis, les élections françaises, je pense qu'ils
Non.
s'en foutent. Non.
Mais je pense que depuis toujours, hein, il y a
Non.
toujours les médias autour des éditions spéciales pour les États-Unis, etc. Et pendant un an, ils sont à fond chez les États-Unis. Et ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment des petits détails, parce qu'ils ont commencé à envoyer des reporters pour les premiers meetings des primaires au mois de janvier. C'est des trucs tellement des petits détails qui sont vraiment pas très importants que je trouve ça assez fascinant.
C'est ça, avant on avait
Est-ce
le
qu'on a vraiment
gagnant.
évoqué?
Avant, on avait le gagnant des primaires. Maintenant, ils ont couvert ça comme tout n'importe quel média américain avec quasiment direct, quoi.
Bah,
Donc,
tu vois, même nous, dans notre système d'élection, alors même si ça reste encore très, très à l'ancienne, enfin, c'est notre culture, mais il y a eu aussi ce système un peu de primaire, à gauche, à droite. On a voulu un peu rendre un peu donner un peu du spectacle, quoi.
Ouais, bah, je pense que c'est pour ça que les gens aiment les élections américaines, c'est spectaculaire. Et
Ça, voilà,
en
c'est ça.
plus, évidemment que ça a un impact sur nous parce que le président américain, ça a toujours un impact sur le reste du monde et la politique mondiale, mais malgré tout, ça ne va pas changer notre vie, le président américain.
On est
Et
d'accord.
même des Américains non plus, dans la majorité des cas, ça ne va pas non plus changer leur vie. Mais c'est quand même spectaculaire et en fait, ils voient ça comme une série télé américaine, quoi.
C'est ça.
Oui, c'est vrai, on l'a vu, on a déjà eu Trump pendant 4 ans, ça nous a pas. Il n'a pas fait grand-chose, en fait.
Non.
Mais de toute façon, on fera un jour un épisode Raconte-moi l'Amérique sur comment fonctionnent les institutions, surtout le pouvoir exécutif, parce que c'est marrant,
C'est
parce
très
que
important.
beaucoup de Français regardent et sont friands de ça et demandent de ça, alors que jamais personne ne comprend comment ça fonctionne.
Non.
C'est
Non.
même pour m'y être intéressé, il y a quand même des choses super compliquées quand même. Les primaires selon les États, comment ils votent, etc. C'est quand même très très compliqué. Et comment fonctionne le pouvoir exécutif, où finalement le président n'a quasiment aucun pouvoir.
Même si je pense qu'aux États-Unis, notre système à nous doit leur sembler bizarre aussi, quoi. Potentiellement, mais c'est vrai que oui. En tout cas, pour nous, comme ça paraît plus simple, nos élections à nous, que.
Ouais, bien sûr.
Mais encore une fois, si on s'y intéresse pas, c'est comme moi qui suis passionné de baseball, souvent quand je dis j'aime le baseball, le premier truc qu'on me dit, c'est j'y comprends rien. Donc
Ouais.
oui, si tu ne regardes pas, tu peux pas comprendre.
Bah,
Donc
faut voir
dans
tous
tous les sens. Le
personnellement,
mot.
je regarde pas le foot et du coup, je peux dire que je comprends rien, mais bon,
Voilà, c'est ça, tu vois.
c'est juste parce que j'ai pas fait l'effort.
C'est ça, voilà, exactement. Tout à
Ouais,
fait.
les Français regardent ça comme le Super Bowl tous les ans.
C'est ça.
Et à chaque fois sur W9 ou M6, ils rappellent les règles.
Exact.
C'est vrai.
Donc faire une petite vidéo ouais, sur expliquer les règles des grands électeurs, etc. Bon.
Carrément, carrément. C'est souvent une question qu'on me pose dans le cadre du podcast, mais les lieux que tu aimes le plus, les lieux que tu aimes le moins.
À New
New
York?
York. À New York.
Dis pas que tu aimes tout.
C'est ce que j'allais dire, c'est difficile, faut que je réfléchisse.
Une question, c'est marrant, ça, c'est une question souvent qui interpelle les gens. Et autant les trucs qu'ils aiment bien, ils vont le dire assez vite, c'est normal.
Ouais.
Mais c'est important justement pour essayer de contrebalancer, parce que voilà, et toujours nous, on sait, ceux qui nous écoutent déjà depuis un moment savent ce qu'on n'aime pas à New York et ce qu'on aime, mais.
C'est vraiment difficile à dire parce que chaque coin a un peu son contexte différent. Si je dois dire ce que j'aime le plus pour vivre ou même se balader, j'aime beaucoup tout ce qui est autour de Central Park, Upper West Side. Je vais pas beaucoup du côté est, mais du côté ouest, il y a beaucoup de restaurants très sympas. C'est juste à côté du parc, donc forcément, moi, le Central Park, c'est peut-être mon endroit préféré à New York. Parce qu'il est tellement grand, tellement riche, c'est assez incroyable. Et donc, tout ce qui est à l'ouest de Central Park, on va dire entre la 70e et la 100e, c'est quand même assez large. Il y a plein de petits restaurants, plein de très beaux bâtiments. Moi, c'est un coin que j'aime beaucoup et c'est très calme, c'est très familial. On est vraiment loin de la folie new-yorkaise, on va dire. Il y a beaucoup. C'est un peu plus riche, mais bon, bah, c'est très calme. C'est un coin que j'aime beaucoup. Pour habiter, bah, moi, j'aime beaucoup Harlem aussi, parce que c'est un lieu qui est très historique. Et même pour visiter, c'est un peu. Le fait que ce soit pas beaucoup connu fait que c'est encore plus appréciable. Et tout le côté sud de Manhattan, West Village, East Village, c'est des coins que j'aime beaucoup aussi, mais juste pour me balader. Je ne me verrais pas habiter là-bas. Et j'ai l'impression de ne pas appartenir à ce monde-là, on va dire. C'est tout ce qui est autour de NYU, donc c'est vraiment l'université des jeunes un peu cool. Il y a un côté un peu presque hippie dans le coin qui est assez spécial. Et c'est toujours passer un samedi juste assis à Washington Square Park, par exemple, c'est fascinant. Mais bon, je pense que on n'est pas du tout la même catégorie de gens, donc c'est difficile de. Je me verrais mal habiter ici, par exemple. Et Greenpoint aussi à Brooklyn, qui est un coin qui est très sympa, mais pareil, plus pour se balader. Je sais pas si je me verrais habiter ici parce que c'est une ambiance qui est assez spéciale aussi. Je me sens pas comme étant un artiste ou quoi, donc. Je sais pas, il y a une ambiance qui est un petit peu spéciale. Je sais qu'il y a beaucoup de Français là-bas, d'ailleurs. Il y a un côté un peu parisien, presque. Je sais pas si c'est moi, mais je le ressens un peu comme ça, des fois. Un peu genre le Marais, un petit peu, on va dire. Mais bon, c'est juste mon impression. J'habite pas là-bas, donc il y a peut-être des gens qui vont me taper sur les doigts. Que j'aime le moins, ça serait un peu trop facile de dire Times Square, mais. En vrai, c'est pas si terrible. Il y a beaucoup de monde et moi je comprends que ce puisse être un endroit fascinant aussi. Et en plus, j'y vais souvent parce que, comme je dis, ma copine travaille pour un théâtre à Broadway, donc je vais souvent dans le coin.
Oui, donc
Il y a des côtés négatifs et des côtés positifs. Plus qui est autour de. Tout ce qui est autour de Madison Square Garden, c'est vrai que c'est un petit peu. C'est très sale, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de bruit. Et en plus, c'est historique, mais en même temps, ils ont cassé plein de trucs bah, pour construire l'arène et plein de trucs qu'il y a autour. Donc, il y a à la fois un côté historique que j'aime bien, mais en même temps, il y a un mélange un peu bizarre qui fait pas trop rêver. Surtout tout le côté ouest qui va vers les ports. Et là, c'est vraiment des grandes routes. Même marcher ici tout seul, ça peut faire peur, quoi, des fois. Il y a beaucoup de bus qui passent, des grandes routes, c'est assez dangereux. Il y a beaucoup de SDF dans les rues qui dorment ici, d'ailleurs.
Il y a les grosses gares routières dans ce coin-là.
Voilà, c'est ça, ouais. Tout ce qui est
J'avais pris
autour
une
aussi de
histoire
Port Authority, ouais.
là. C'est un peu le bagnolet local, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est un endroit qui fait pas trop rêver. C'est juste à côté de Times Square, c'est pas. Donc, toute cette zone, on va dire entre 34e et 45e à l'ouest, qui est un peu spécial. Mais bon, je dis vraiment ça parce que je me force à trouver un endroit que j'aime pas. Sinon, franchement, tous
Non, mais
les
c'est bien,
coins
c'est
ont
intéressant.
un peu leur charme.
Ouais, complètement. Et dans le quartier dans lequel tu habites, j'imagine que tu as une petite vie de quartier où tu as peut-être ton épicerie, des restos, des choses comme ça dans lesquels tu aimes bien aller, sans nous faire 30 minutes comme nous a fait Marc Lévy sur tous les restos de New York. À chaque fois, on a oublié de le citer parce que ça nous a énormément marqué. Est-ce que tu as des adresses que tu souhaites nous partager, que tu aimes bien
Alors, une que je pourrais partager qui peut intéresser les gens, c'est Charles Fried Chicken, qui est donc Charles comme le prénom Charles. Qui est une chaîne, je crois. Je crois qu'ils en ont aussi dans l'Upper West Side, mais ils sont principalement au nord de New York, qui fait donc de la soul food, donc de la nourriture du sud des États-Unis, principalement du poulet frit avec du mac and cheese, de la purée, les plats typiques de la communauté noire au sud des États-Unis. C'est très très bon et c'est très peu cher. Pour 10$, il y a deux grosses pièces de poulet frit avec un accompagnement. Et
Intéressant.
c'est très sympa et c'est un truc qui est un peu typique du quartier, on va dire. C'est quelqu'un qui s'est installé à Harlem dans les années 70, qui a fait son petit commerce, et après il en a fait un restaurant, etc. Donc c'est un peu style fast-food, mais en même temps c'est très bon. La nourriture est très bonne. Donc ça, je recommande vivement, parce que c'est très américain, et nous on connaît KFC, etc. Là, c'est la version authentique, on va dire. Sinon, c'est vraiment des petits trucs de quartier qui ne sont pas forcément mieux qu'ailleurs, mais moi j'y vais parce qu'ils sont dans mon quartier, donc c'est difficile de les recommander. Juste à côté de chez moi, il y a un endroit qui s'appelle le Harlem Public, qui est un espèce de bar très cool, qui est juste en bas de chez moi. Donc j'ai un peu l'impression de vivre la vie dans How I Met Your Mother, avec le bar qui est juste en dessous de l'appartement. Donc j'y vais très fréquemment, les burgers sont très bons. Ils ont un burger au beurre de cacahuète, si ça intéresse des gens, c'est très spécial, mais c'est très bon. Sachez que c'est très bon. Je sais que comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis dit ça aussi.
Moi, le cacahuète, j'adore ça, donc
Pareil.
Parce
que
Et bah, franchement, c'est très bon. Donc, ouais, si quelqu'un veut manger un burger au beurre de cacahuète, c'est le Harlem Public au 149e rue, je crois. Sinon, ouais, c'est des petits restaurants comme ça, un peu. Ils sont pas forcément meilleurs qu'ailleurs, mais j'y vais s'ils sont pas loin, quoi.
Et là, je te prends un peu au dépourvu, mais si tu avais un média à recommander sur New York, n'importe quelle forme, ça peut être un compte Insta, un film, une série.
Le
Un BF
vôtre.
français.
Le podcast.
Merci.
Sinon, un média. En média, comme ça, je ne saurais pas dire. Même tout ce qui est contenu artistique aussi.
N'importe quoi. Quelque chose qui évoque New York, qui présente bien New York pour toi.
Moi, je recommanderais le compte Instagram de Arnaud Montagard, qui est un photographe que vous connaissez peut-être,
Ouais, je connais.
français, qui habite à New York. Qui a toujours été une grande source d'inspiration pour moi et que j'ai eu la chance de rencontrer en plus il y a quelques mois. Donc voilà, j'affectionne beaucoup ce qu'il fait. Je trouve que c'est très beau et c'est un peu ce qui m'a donné envie de partir aux États-Unis il y a plusieurs années. Et j'aime beaucoup sa façon de voir l'Amérique et notamment New York. Donc je recommande vivement.
Je lui avais écrit d'ailleurs, au tout début.
Ah ouais?
Faudrait peut-être que je le relance un jour.
Il faudrait.
Ouais,
Au
j'avais
début du podcast.
au tout début, ouais.
Ah ouais, ok.
Il me semble. Je retrouvais la date, mais ouais, j'aime beaucoup ces photos à New York, évidemment, mais toutes ces photos aussi dans les petits bleds paumés des États-Unis.
Oui, c'est vrai que pour le coup, j'ai recommandé s'il habite à New York, mais il fait pas tant de choses que ça sur New York. Mais après, il publie souvent des stories et tout sur de sa vie à Brooklyn, donc.
Je vais retrouver West au tout début. En juin 2022, j'avais écrit.
Ah oui, ça date.
Bah après, je commence à citer tous les gens qui m'ont jamais répondu.
Moi aussi, c'est sûr.
Sera
Bah,
ministre
souvent,
comme
ça finit dans
marketing.
les demandes sur Instagram. Moi, ça m'arrive d'aller dans l'onglet demande et je me rends compte qu'il y a des choses que j'avais pas vues en fait qui datent d'il y a très longtemps. Donc ouais, c'est des fois ça se perd facilement.
Ah, le pire, c'est quand tu envoies et que tu vois écrit vu et que tu n'as
Ah
pas
oui, bon, ça
de
c'est
réponse. Ça,
ça c'est
c'est
autre chose.
mortel. On va pas citer les gens qui m'ont fait ça ici, mais parce que peut-être qu'un
Ça
jour, on les aura.
m'arrive fréquemment, donc pas
Oui,
de recevoir le vu, je veux dire, pas de le
oui.
laisser.
Oui, bon, après, voilà, c'est partie des aléas du truc, quoi. Forcément.
Question, JM.
Non, bah en tout cas c'était cool de t'avoir avec nous parce que bah, finalement tu as une approche assez différente, tu as quand même une passion qui est quand même bien marquée comme depuis très longtemps. Donc c'est ça du coup qui est cool et du coup maintenant bah oui, on comprend que New York c'est pas que la ville où tu habites, c'est aussi une passion quoi donc
Absolument.
Tu vis dans ta ville passion. Donc ça c'est cool et assez inspirant pour le coup. Si j'avais une petite dernière question à te poser, un sujet, une vidéo, tu prépares ça en combien de temps à peu près? Alors tu vas me dire, ça va dépendre du sujet, bien sûr. Mais en gros, là, combien de temps ça te prend? Surtout que tu fais tout tout seul, donc j'imagine que ça te prend quand même beaucoup de temps.
Idéalement, environ un mois. Mais c'est en vivant pas beaucoup autour de ça. Donc, ouais, on va dire peut-être 5 semaines au total. Je sais que quand je fais des partenariats, souvent j'ai des deadlines assez strictes, donc je me force vraiment à faire en un mois et c'est possible. Donc, ouais, je dirais entre 4 et 5 semaines au total.
D'accord. OK.
Mais il faut savoir que les dernières que j'ai publiées, enfin, c'est vers novembre-décembre, elles m'ont pris un mois, mais le montage, j'ai dû le faire peut-être en 3-4 jours en dormant très peu. Donc, voilà, si j'avais un emploi du temps normal, ça prendrait peut-être plus de temps.
Ouais, d'accord. OK.
Ouais,
Donc,
c'est.
un mois en général.
Que les gens se rendent compte aussi un peu que c'est quand même énormément de travail quand on dit
C'est
que.
beaucoup de travail.
Ouais.
C'est faut que je lise peut-être 2 livres, plus toutes les informations sur Internet, plus toutes les recherches d'images, regarder des heures de vidéos, c'est beaucoup
Oui,
de.
parce que il y a tout ce qu'il y a autour. Il n'y a pas que l'aspect tournage, il n'y a pas que l'aspect montage, il y a toute une préparation. Voilà, ça va plus loin que la simple vidéo, quoi.
Sur moi, je connais pas les sujets que je traite en fait la plupart du temps, ou alors j'ai des mini connaissances. Et je pense que c'est le cas de la plupart des gens qui font ce type de vidéos. Je parle pas de la mafia en tant que passionné de la mafia et qui écrit comme ça avec passion en 3 jours. Il faut que je fasse beaucoup de recherches pour avoir les bonnes informations et découvrir des choses que moi je connaissais pas à la base. Et après, je découvre un truc et il y a ce qu'ils appellent le rabbit hole. Je sais pas comment traduire ça, mais on creuse, on creuse, on creuse, qu'on a découvert un autre truc. Des fois, ça sert à rien, on perd des jours là-dessus. Donc, ouais, il y a tout ça qui prend énormément de temps.
C'est ça. Puis, comme je l'expliquais aussi, quand tu. Enfin, je sais que moi, j'ai envie de maîtriser le sujet à 110-120%. Dans la plupart des cas, il n'y a personne qui nous dit attention, là, vous vous êtes trompé ou qui aimerait savoir. Mais je me prépare toujours à toute éventualité. À me dire, voilà, faut que je puisse répondre à n'importe quelle question, même si je sais qu'on me la posera pas. Mais
Exactement.
c'est pour
Il
ça.
faut, il faut.
On est perfectionniste là-dessus.
Il faut. Et souvent, les erreurs dans mes vidéos, c'est toujours frustrant parce que c'est des erreurs qui sont bêtes parce que j'ai passé tellement de temps sur des sujets importants que au montage, je me suis trompé sur la date parce que j'ai pas fait gaffe ou alors je me suis trompé sur le prénom de quelqu'un. En fait, des trucs qui. J'ai passé tellement de temps sur les trucs importants que les trucs peu importants, j'y ai même pas pensé en fait. Et c'est toujours des erreurs très bêtes comme ça qui sont très frustrantes
C'est déjà
parce que
arrivé.
c'est difficile.
C'est quand que j'avais mis en ligne
Times Square? T'avais fait
non
une
non
faute?
non 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 non, non c'était un épisode où j'avais fait le montage et finalement je m'étais aperçu que
Ah, c'est moi.
il y avait plus
T'avais laissé toutes les conneries qu'on raconte au début.
je ne sais pas pourquoi mais
Ouais.
voilà
Ouais, des fois, c'est.
ça arrive. Ça arrive,
Je
bon après
comprends totalement.
on n'est pas des professionnels mais voilà ça fait partie des trucs. Bah en tout cas, merci beaucoup, Arthur. Je sais pas si tu avais d'autres questions
Merci
ou
à
sinon.
vous.
Non, moi c'est tout bon. Bonne chance pour la suite. J'espère qu'on
Merci
te.
beaucoup. On va
Merci.
suivre
Merci.
tes vidéos. Sur YouTube, c'est Arthur Jean. Hein.
C'est ça.
Arthur Jean et ton podcast, j'ai dit Fire Escape.
Fire Escape. Et sur tous les réseaux sociaux, c'est Arthur Jean. Comme ça, c'est pas compliqué.
Ouais, tu postes
Toujours le même nom.
pas mal de photos de New York. Donc
C'est ça.
voilà, allez suivre Arthur et
Ouais,
je ne
c'est
suis pas
OK.
photographe, mais à mon humble niveau,
Moi,
je
c'est
sais
pas mal.
publier ce que je vois
Non, elles sont
dans
vraiment
les
bien.
rues. Donc, merci, c'est gentil.
Ça donne envie. Merci.
Merci beaucoup. En tout cas,
Et
c'était un plaisir
si au
pour
cas
moi.
où vous voulez avoir un condensé, si vous voulez avoir un condensé, vous avez le site arthurzoir.com, au cas où il y a tous les
C'est
liens,
ça,
c'est
ouais,
ça?
c'est un peu un petit résumé.
Et il est
Un peu
dispo
plus.
pour les élections américaines, si vous avez besoin d'un correspondant.
Ouais, voilà. Si vous voulez m'envoyer un mail, voilà.
Merci beaucoup en tout cas Arthur du temps que tu nous as accordé.
Merci à vous.
N'hésitez pas du coup, vous allez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi puisque vous avez maintenant 65 épisodes à dispo, plus les capsules. Vous avez largement du contenu. N'oubliez pas également Raconte-moi l'Amérique. Vous inquiétez pas, on travaille sur d'autres épisodes, mais ce sont des épisodes beaucoup plus longs à préparer. Donc c'est pour ça que peut pas se permettre de faire un épisode par semaine, mais voilà, vous connaissez, on vous en a déjà parlé. Il y a aussi tout ce qui est autour, donc voilà, forcément. Merci beaucoup en tout cas, Arthur. Quant à nous, mon cher Fabien, on se retrouve pour un prochain épisode.
Que je pense écrire dans la semaine.
Très bien. T'as un petit teaser comme ça, un petit truc là
ce sera un épisode True Crime.
Ouais. Très bien.
Sympa.
Très bien. Ouais. Voilà. Ouais, t'as envie qu'on fasse du like et tout, toi.
Ouais, c'est ce qui marche le mieux. Je me suis dit, allez hop, hein, fini la culture, les trucs, les machins, on veut faire du clic.
Mm-hmm. Il faut.
Donc voilà, vous avez au moins un petit aperçu du prochain épisode. On salue Isabelle aussi qui travaille avec nous aussi de temps en temps sur les capsules et tout, qui nous écoute. Merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. Et on se retrouve donc pour un prochain épisode de Raconte-moi New York. Salut à toutes et à tous.
Bye bye, merci.